Bonjour, je suis Olivier, bienvenue dans le podcast de Nightmare Tree. Aujourd'hui, je vais résumer et critiquer le livre. Publié à titre posthume en 1953, Recherche philosophique est le grand ouvrage du Wittgenstein tardif et un texte majeur de la philosophie du langage au XXe siècle. Dans l'édition française de Gallimard, il se présente comme une suite de remarques brèves, d'exemples ordinaires et de dialogues critiques, plutôt que comme un traité systématique. Wittgenstein y revient sur certaines orientations de son Tractatus Logico-Philosophicus et conteste l'idée qu'une analyse logique unique puisse révéler l'essence de tout langage. Son but n'est pas d'édifier une nouvelle théorie générale de la signification, mais de dissiper les confusions qui naissent lorsque les mots sont arrachés aux circonstances où ils fonctionnent. Le livre examine ainsi l'apprentissage des mots, les jeux de langage, les règles, la compréhension, les sensations et la possibilité d'un langage privé. Sa méthode demande au lecteur de décrire les usages effectifs plutôt que de chercher des explications métaphysiques cachées. Cette attention aux pratiques humaines a profondément renouvelé la philosophie analytique et les débats sur l'esprit, les mathématiques et la vie sociale. Je vais vous présenter les points clés de ce livre. Premièrement, la signification comme usage dans des pratiques situées. Le déplacement central des recherches philosophiques consiste à refuser que la signification d'un mot soit, par principe, un objet mental. Une chose désignée ou une essence abstraite. Wittgenstein invite plutôt à demander comment un mot est employé dans une activité déterminée. Dire que le sens et l'usage ne revient pas à soutenir que chaque emploi individuel décide arbitrairement de ce qu'un terme veut dire. L'usage est encadré par des apprentissages, des réactions partagées, des techniques et des critères publics de correction. Un mot tel que « je », « nombre », « douleur » ou « comprendre » n'obéit pas nécessairement à une définition unique qui couvrirait tous ces cas. Il peut fonctionner à travers un réseau de ressemblances, avec des chevauchements partiels entre les exemples. Cette critique vise notamment le modèle selon lequel apprendre le langage consisterait d'abord à associer des noms à des objets. La désignation ostensive elle-même ne détermine rien, sans contexte montrer une chose peut enseigner son nom, sa couleur, sa forme ou son rôle. L'analyse doit donc décrire la place d'une expression dans une pratique, et non supposer qu'un mécanisme caché garantit son sens. Cette orientation transforme les questions philosophiques en enquête sur la grammaire concrète de nos concepts. Deuxièmement, les jeux de langage et les formes de vie comme cadre de l'intelligibilité, la notion de jeu de langage rend visible la pluralité des fonctions du langage. Ordonner, décrire, compter, raconter, plaisanter, prier, donner un rapport ou résoudre un calcul ne sont pas des variantes superficielles d'une seule opération fondamentale. Ce sont des usages organisés par des règles, des objets, des gestes, des attentes et des finalités distinctes. Wittgenstein emploie des exemples volontairement simples, comme des ouvriers qui utilisent quelques mots pour coordonner une construction, afin de détacher l'analyse de nos habitudes théoriques. Ces scènes ne prétendent pas réduire la langue ordinaire à des systèmes rudimentaires. Elles montrent qu'il est possible de comprendre une expression en observant ce que les interlocuteurs font avec elle. Les jeux de langage sont inséparables de formes de vie, c'est-à-dire de l'arrière-plan de conduite humaine, dans lequel apprendre, répondre, vérifier, enseigner et corriger deviennent possibles. Cette idée ne propose pas un relativisme où toute pratique serait incomparablement close sur elle-même. Elle souligne plutôt qu'une règle linguistique ne se soutient pas seule, elle s'inscrit dans des habitudes publiques et des compétences partagées. La philosophie gagne alors en précision lorsqu'elle compare différents usages au lieu de chercher la structure universelle supposée sous-jacente à toute parole. Troisièmement, suivre une règle sans invoquer une interprétation infinie. Les analyses du suivi de règles examinent une difficulté décisive, qu'est-ce qui fait qu'une personne continue correctement une série, applique une consigne ou comprend une formule. Une réponse spontanée consisterait à dire qu'elle possède une interprétation intérieure de la règle. Wittgenstein montre cependant que toute interprétation formulée peut, à son tour, être comprise de diverses façons et exiger une nouvelle interprétation. Si l'on explique l'application d'une règle uniquement par une représentation mentale, on déclenche une régression sans fin. Cela ne signifie pas que les règles sont illusoires, ni que toute réponse vaut autant qu'une autre. La différence entre suivre correctement et se tromper repose sur des pratiques d'apprentissage, d'exercice, de rectification et d'accord dans l'action. Une règle peut être écrite, enseignée et invoquée, mais elle ne contient pas par elle-même toutes ses applications sous la forme d'un mécanisme autonome. Elle vit dans la manière dont une communauté l'emploie. Cette réflexion a des conséquences pour les mathématiques, où Wittgenstein combat l'idée qu'une signification privée ou une entité abstraite assurait seule la nécessité du calcul. Elle éclaire aussi les activités ordinaires, comprendre une instruction. Ce n'est pas toujours consulter une image intérieure, mais savoir continuer de façon reconnue comme appropriée dans une situation. Quatrièmement, la critique du langage privé et les critères de la sensation. dans ses discussions sur la douleur, les sensations et la première personne. Wittgenstein ne nie pas que chacun éprouve ses propres douleurs ou que l'expérience ait une dimension intime. Il conteste une image philosophique précise, celle d'un langage dont les mots désigneraient des objets entièrement privés, accessibles à un seul locuteur et identifiables par une inspection intérieure. Un tel langage ne pourrait pas distinguer de manière effective l'usage correct de l'usage seulement cru correct, puisque le critère de la correction resterait enfermé dans l'impression présente du sujet. L'exemple célèbre du scarabée dans une boîte souligne que le contenu intérieur supposé d'un mot n'est pas nécessairement ce qui règle son emploi public. Le mot « douleur » s'apprend dans des contextes où s'articulent expression, comportement, soins, description et critères variables. Cette analyse ne réduit donc pas les états mentaux à des comportements observables, comme le ferait un behaviorisme simplificateur. Elle cherche à restituer la grammaire réelle des énoncés psychologiques autrui ne vérifie pas ma douleur comme un objet caché, mais reconnaît aussi des manifestations et circonstances qui donnent au concept sa place. Le livre déplace ainsi l'opposition trop simple entre intériorité pure et observation extérieure, et il renouvelle la question de l'accès à l'esprit d'autrui. En dernier lieu, une philosophie thérapeutique contre les pseudo-problèmes métaphysiques. Wittgenstein caractérise fréquemment le travail philosophique comme une clarification capable de dénouer des embarras produits par le langage. Son ambition n'est pas de fournir une doctrine concurrente sur la réalité, la pensée ou l'esprit. Elle est de montrer comment certaines questions acquièrent une apparence de profondeur insoluble parce que nous confondons des emplois différents d'un même mot ou exigeons une explication là où une description suffit. Les problèmes philosophiques surgissent lorsque le langage part en vacances, c'est-à-dire lorsque ces expressions sont séparées des usages qui leur donnent une fonction déterminée. La méthode est thérapeutique non parce qu'elle livrerait une recette universelle, mais parce qu'elle examine chaque confusion dans sa configuration propre. Les remarques du livre procèdent par retour, objections imaginaires et changements d'exemple. Cette forme fragmentaire est cohérente avec le projet, il ne s'agit pas de déduire une théorie depuis des principes, mais d'obtenir une vue synoptique des connexions grammaticales. L'auteur ne prétend donc pas abolir toutes les questions intellectuelles difficiles. Il vise les fausses alternatives et les hypostases qui empêchent de voir ce que nous faisons déjà avec les mots, comparé à une philosophie qui cherche des fondements ultimes. Cette pratique privilégie la lucidité descriptive, le détail des circonstances et la reconnaissance des limites propres à chaque problème. En conclusion, Recherche philosophique s'adresse en priorité aux étudiants et lecteurs de philosophie du langage, de philosophie de l'esprit, de logique et de sciences humaines qui souhaitent comprendre l'un des tournants majeurs de la pensée contemporaine. Il intéressera aussi les lecteurs attentifs aux difficultés de l'interprétation, de l'apprentissage et de la communication, à condition d'accepter une lecture lente. Sa forme discontinue. Son écriture dialoguée et la densité de ses exemples rendent l'ouvrage exigeant. Il se prête davantage à l'étude par séquence qu'à une lecture rapide et linéaire. Le bénéfice intellectuel est considérable. Le livre apprend à ne pas confondre une question portant sur les faits avec une confusion concernant nos concepts, et à examiner les conditions concrètes dans lesquelles une expression a un sens. Cette discipline de lecture peut enrichir l'analyse de débats sur la conscience, les règles, les normes et les pratiques sociales. Parmi les ouvrages de philosophie du langage, il se distingue par son refus de remplacer une théorie totalisante de la signification par une autre. Là où beaucoup de textes proposent des définitions, des modèles formels ou des thèses explicatives, Wittgenstein travaille par diagnostics locaux et par variation d'exemples ordinaires. Il ne livre pas un système prêt à appliquer, mais une manière rigoureuse de résister aux simplifications philosophiques. Cette singularité explique son influence durable et les interprétations parfois divergentes qu'il continue de susciter. Si vous souhaitez soutenir Ludwig Wittgenstein, vous pouvez acheter le livre via le lien Amazon que j'ai fourni dans la description du podcast. Après avoir lu le livre, faites-moi savoir ce que vous en pensez et partagez vos réflexions. À bientôt.